France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 15 novembre. Bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, routes coupées, foyers privés d'électricité, poids lourds immobilisés, trafic SNCF perturbé, la neige est tombée en abondance dans un grand quart sud-est de la France. On fait le point, Agnès, après les autres titres.
Quelle suite a donné au mouvement après le succès de la manifestation pour défendre l'hôpital public hier? Le témoignage du médecin au procès des parents de Gabin, mort de faim et de soif à 22 mois. Le chaos à Hong Kong pour la 5e journée consécutive. Les Bleus qualifiés sans gloire pour l'Euro 2020. Et un concours des lycéens qui résonne avec l'actualité. Il y est question de sexe, de pouvoir, de consentement et de médias.
Les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec Ali Badou, c'est le journaliste Ronan Farrow, prix Pulitzer pour son enquête sur l'affaire Harvey Weinstein. Il publie Les Faire Taire aux éditions Calman Levy. Et puis à 8h20, le grand entretien de la matinale aujourd'hui avec Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Le standard est déjà ouvert, 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est le premier épisode neigeux de la saison. Une neige particulièrement lourde et collante est tombée en abondance dans la Drôme, l'Ardèche et l'Isère notamment. En Isère, un homme de 63 ans a été tué par la chute d'un arbre. Un jeune homme est également blessé. Il est tombé jusqu'à 20 cm de neige en plaine. Une neige qui a entraîné des coupures sur deux lignes à haute tension avec 200 000 foyers privés d'électricité. La circulation des poids lourds est également interdite en Ardèche et autour de Lyon où les pneus neige sont obligatoires. Des dizaines de chauffeurs ont ainsi dû passer la nuit sur des aires d'autoroute. Mathilde Imberti est allée à leur rencontre ce matin. Reportage.
5h du matin, la station-service de Corbas, zone industrielle à moins de 15 km de Lyon. Une dizaine de chauffeurs routiers sont au comptoir.
Et puis on attend parce que apparemment la rocade est bloquée, elle est fermée au poids lourd. Vous êtes passé dessus, vous ?
Michel, Bernard et quelques autres collègues ont dû passer la nuit ici, dans leur camion. Ça n'était pas prévu, la neige les a surpris.
Moi, j'étais dans les monts du Lyonnais, et bien c'était 15h, il neigeait déjà plein pot. Et je viens de l'Oise, je suis descendu vidé sur Lyon, je devais repartir chez moi dans le Jura.
Hier, j'ai failli me faire coincer dans la Loire, puisqu'ils ont déclenché ça dans l'après-midi, et bon, j'ai pu me sauver tant bien que mal. Il y a du monde là-bas, ils sont tous bloqués. Sud-Nord et Nord-Sud.
Leur souci ce matin, pouvoir quitter la périphérie de Lyon et rejoindre leur chez eux. Les poids lourds sont interdits de circulation jusqu'à 8h a priori.
Alors on va sur la Lune, on fait un tunnel sous la Manche et 5 cm de neige, ça paralyse un pays quoi.
À Corbas, dans le Rhône, Mathilde Imberti, France Inter.
Côté transport encore, la circulation des trains est perturbée, notamment au départ de Grenoble, via Lyon, Valence et Vennes. Pas de TER non plus entre Lyon et Bourg-en-Bresse. Un train a heurté un arbre tombé sur la voie. Pas de transport scolaire dans la Loire et la Haute-Loire aujourd'hui, même si les établissements resteront ouverts. La situation devrait s'améliorer dans les heures qui viennent. Un seul département reste en vigilance orange, neige, verglas ce matin, la Saône-et-Loire. Des difficultés également sur l'autoroute A7. Nous ferons le point sur la circulation après le journal.
Il est 7h04, Agnès, une grande journée de mobilisation. Et après,
Emmanuel Macron a promis un plan conséquent et des décisions fortes qui seront annoncées mercredi par le Premier ministre. Le chef de l'État assure avoir entendu la colère et l'indignation des personnels soignants. Une déclaration au moment même où des milliers de personnes manifestaient un peu partout en France. Ils étaient 10 000 à Paris selon les organisateurs, 7 500 selon la police. Une mobilisation inédite prolongée par une assemblée générale à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière hier pour décider de la suite à donner au mouvement. Véronique Julia y était. Reportage.
Comme une vague qui monte, ce mouvement hospitalier qui fédère de plus en plus largement, ça me rappelle 68, plaisantait hier un professeur de médecine parisien au soir de la grande manifestation. Satisfécité, applaudissements nourris de l'Assemblée pour cette journée qualifiée d'historique. Le ton a changé en revanche quand il s'est agi d'évoquer la suite. Certes, l'exécutif a promis des annonces pour mercredi, mais personne ne croit vraiment au déblocage des 2 à 3 milliards réclamés, d'où l'importance de maintenir la pression et cette question... Quand redescendre dans la rue, le 5 décembre, en rejoignant la journée d'action sur les retraites, ou un autre jour, en restant entre hospitaliers pour défendre l'hôpital et rien que l'hôpital. Débat nerveux hier soir entre les partisans d'une convergence des luttes soutenue par les syndicats.
Je suis désolé, on se bagarre contre le gouvernement. Notre combat, il est politique.
et les autres. Finalement, chacun participera à la journée du 5 décembre s'il le souhaite. Les autres pourraient se décider à manifester le 30 novembre prochain si les annonces de Matignon déçoivent mercredi. Après une si belle unité, prévenait hier une hospitalière, ne tombons surtout pas dans le piège de la division.
La réforme des retraites avec une opération réconciliation hier soir à Pau. Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye côte à côte durant 2 heures pour une consultation citoyenne et une opération déminage avec une série de rencontres bilatérales la semaine du 25 novembre entre le Premier ministre et les partenaires sociaux. Et puis jeudi prochain, le haut commissaire aux retraites et le secrétaire d'État aux transports recevront les syndicats de la SNCF, la CGT, l'UNSA Sud et la CFDT. Sur le front social encore, les Gilets jaunes appellent à redescendre dans la rue ce week-end. Un an après la première mobilisation, nous y reviendrons dans le journal de 8 heures. Il reconnaît être passé complètement à côté de la détresse de Gabin. Témoignage très attendu hier du médecin de famille au procès des parents du petit garçon de 22 mois. Mort de faim et de soif en 2013, il pesait un peu plus de 5 kilos. Le docteur Jean-Louis Vorce a pourtant vu Gabin 7 fois en 15 mois, la dernière fois un mois et demi seulement avant sa mort. Mais elle a expliqué ne pas avoir déshabillé l'enfant pour ne pas l'embêter, ne pas s'être aperçu qu'il ne marchait pas. Il a témoigné hier au micro de Camille Laurent de France Bleu Creuse.
Là, il y a une erreur patente de diagnostic, bien évidemment, je ne peux pas dire autrement. Hein, surtout que ça s'est fini tragiquement. Et ça me marquera à vie. Je ne m'en suis pas aperçu parce que l'enfant était toujours très bien tenu quand il est venu me voir à chaque fois. Lavé, propre, avec des vêtements propres, les parents toujours pareil avec des vêtements propres. Je n'avais pas en face de moi un enfant qui était maltraité, je n'avais aucun signe physique de maltraitance. Je n'avais aucun signe physique, je dirais, d'un enfant en souffrance. Je n'ai pas vu les photos de Gabin à son décès, mais je pense que je ne l'aurais certainement pas reconnu. Et on peut se demander, a posteriori, si les parents ne recherchaient pas tout simplement une caution médicale pour expliquer, je dirais, leur manque d'attention et leur négligence.
Le médecin qui sera, lui, jugé l'an prochain pour non-assistance à personne en péril. Le verdict pour les parents est attendu dans la journée. Il risque 30 ans de prison. À Nice, SOS Médecins va reprendre progressivement ses consultations dans les quartiers sensibles grâce à un accord conclu avec la police qui pourra accompagner les praticiens qui le souhaitent. Le week-end dernier, une jeune médecin avait été violemment agressée. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30.
Il est 7h08, Agnès. La tension est toujours aussi vive à Hong Kong.
Et le conflit s'est même exporté avec à Londres l'agression de la secrétaire d'État à la justice hongkongaise prise à partie par une foule de manifestants violents venus protester. Teresa Cheng souffre de liaisons corporelles graves, selon un communiqué. À Hong Kong, les habitants, eux, vivent leur 5e journée de paralysie totale. Les étudiants ont notamment érigé des barricades sur plusieurs axes routiers. Dominique André est l'envoyé spécial de France Inter à Hong Kong.
Les critiques montent contre le gouvernement de Carrie Lam pour son incapacité à régler le chaos à Hong Kong. Ce matin, le South China Morning Post, le plus grand quotidien local, titre à la une sur la paralysie de la place financière. Dans le quartier des affaires de Central, M. Long, qui travaille dans l'import-export, dénonce ceux qui prennent la ville en otage. Il veut le retour à la paix.
C'est très dur quand il n'y a aucun métro, des problèmes sur les lignes, pas de moyens de transport, pas de bus, aucune possibilité pour circuler. C'est définitivement compliqué. Mes enfants, par exemple, ne peuvent pas aller à l'école et beaucoup d'écoles restent fermées. Personnellement, je pense que les manifestants n'obtiendront rien de cette façon. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas la bonne méthode pour obtenir quelque chose. Et les gens veulent le retour à la paix. Tout le monde veut le retour à la paix.
Sur les campus universitaires, les étudiants sont toujours barricadés pour contrer une éventuelle intervention de la police. La tâche la plus importante des autorités locales, c'est de rétablir l'ordre, a martelé hier le président chinois Xi Jinping. Hong Kong, Dominique André, France Inter.
Le cessez-le-feu reste très fragile à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. L'armée israélienne annonce avoir frappé des cibles du djihad islamique alors que le tir de plusieurs roquettes contre Israël. Nouvelle alerte à Venise où un pic de marée est attendu en fin de matinée, 3 jours après des inondations records qui ont provoqué de gros dégâts. Le gouvernement italien a décrété l'état d'urgence naturelle pour la cité des Doges qui a connu sa pire marée depuis plus de 50 ans.
Et une victoire sans panache pour les Bleus hier soir face à la Moldavie.
Une victoire qui n'était certes même plus nécessaire. Après le match nul entre l'Islande et la Turquie, la France était qualifiée pour l'Euro 2020. Mais Guillaume Batin, les supporters auraient aimé un peu plus de spectacle.
Les supporters des Bleus étaient venus au Stade de France pour voir un feu d'artifice offensif avec le retour de Kylian Mbappé et N'Golo Kanté. Ils ont vu une victoire dans la douleur, comme le reconnaît l'attaquant Antoine Griezmann.
C'est vrai qu'on n'a pas fait un bon match. On n'était pas dedans, surtout en première période. Il n'y a pas d'explication. C'est des fois t'es pas bien et aujourd'hui dans les derniers gestes ça a été le cas. Après faut pas chercher non plus des excuses. Il va falloir faire un meilleur match pour l'emporter et assurer la première place.
Une erreur de relance du défenseur du Barça, Clément Lenglet, coûte le premier but aux Bleus. Devant, les attaquants ont multiplié les actions sans jamais se trouver, sauf sur le but égalisateur de Raphaël Varane, où Olivier Giroud aurait pu être sanctionné pour une faute sur le gardien moldave. Une prestation décevante pour le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, qui a sermonné ses joueurs à la mi-temps.
Ouais, je prends fort dur, très dur, mais bon, il y a tellement de qualité et de potentiel que j'attends beaucoup d'eux, donc... Quand je vois pas ce que j'ai envie de voir, voilà, je leur dis, comme à chaque fois.
Et malgré cette difficile victoire, les Bleus sont en tête du groupe H avec 2 points d'avance sur la Turquie. Ils pourront même terminer premier dimanche en 4 victoires face à l'Albanie.
La France donc, mais aussi l'Angleterre, la République tchèque et la Turquie se sont qualifiés hier pour l'Euro 2020. Le Portugal va devoir attendre son dernier match dimanche. Et de 2, après le prix interallié, Karine Thuil remporte le très convoité Goncourt des lycéens. Un beau doublé pour un roman qui rencontre de fortes résonances avec l'actualité. À l'heure de MeToo, les choses humaines, l'histoire d'une famille confrontée à une accusation de viol, pourrait devenir le roman de toute une génération, Ilana Mourioussef.
2 prix remportés coup sur coup, ça n'a rien d'anodin. L'interallié d'abord est plus significatif car décerné par un jury de jeunes, le Goncourt des lycéens. C'était la 5e sélection de Karine Thuil pour ce prix. Cette année, dit-elle, il y a eu quelque chose de spécial dans les rencontres.
Ils m'ont parlé des personnages comme s'ils étaient vivants. Ils me parlaient de Mila, d'Alexandre, des parents, comme s'ils existaient. Et donc il y a eu un phénomène d'identification aussi peut-être qui s'est produit chez eux. Ils se sont dit, ça pourrait m'arriver, ça pourrait être moi. Les parents aussi se sont dit ça, les professeurs sans doute. C'est vraiment un sujet de société très sensible.
La question du consentement entre deux jeunes de 18 et 21 ans a visiblement fait mouche. Les choses humaines fait parler en famille, entre amis, d'un sujet qui n'a quasiment pas quitté l'actualité depuis 2 ans.
C'est quand même un texte aussi qui aborde la question de la libération de la parole, des violences sexuelles. Et chez les jeunes, ça a fait évidemment écho en eux et on a eu de très nombreuses discussions. Parfois, ils me confiaient des choses assez intimes. Et je sais aussi qu'ils ont eu des discussions avec leurs professeurs en classe et aussi chez eux, avec leurs parents.
Rencontrée dans une librairie, une femme raconte que sa fille ne lit plus depuis des années. Et pourtant, dit-elle, elle m'a réclamé le livre. Les choses humaines pourraient bien devenir le roman de la génération MeToo.
Et Karine Thuil sera l'invitée dimanche du grand entretien avec Pierre Veille et Patricia Martin sur Inter.
Merci Agnès Soubiran.